Chapitre 9. Durant le souper, sous l'œil observateur de son père, Ferdi n'eut peine à faire bonne contenance. Son irritation, loin de diminuer, augmentait sans cesse. Les joues enflammées, elle avait dans la gorge comme une boule qui l'empêchait de manger. Elle avala précipitamment une tasse de lait et, d'une main agitée, repoussa son assiette en disant qu'elle n'avait pas faim. Puis elle demanda la permission de monter dans sa chambre. Debout près de la fenêtre, immobile dans l'obscurité, elle passa une grande heure à se répéter avec amertume que Siméon avait déserté la cause. « C'est bien, qu'il devienne ce qu'il voudra, je ne me soucie plus de lui. C'est moi qui le poussais en avant, j'ai eu tort. Assurément, il doit obéir à sa tante, mais il a presque 16 ans. Au lieu de dire oui comme un bébé, il aurait dû parler et agir en homme. Ah, si c'était moi, je ne me laisserais pas si docilement mettre en esclavage. » Et dans sa tête enfiévrée, elle arrangeait le discours qu'elle aurait tenu à tante Cornélie si elle avait été à la place de Siméon. Puis, tout à coup, les paroles violentes qu'elle avait laissées échapper lui revinrent en mémoire et le rouge de la honte lui monta aux joues. « J'aurais dû me contenir, il avait l'air si flegmatique, lui. Mais non, pourtant, il devenait pâle puis rouge. Il sentait plus qu'il n'en laissait voir. Il est ainsi. Moi, c'est tout le contraire. »« Êtes-vous couché, Frédégonde ?» demanda Mademoiselle Caton derrière la porte. « Pas encore, tout à l'heure. »« Dépêchez-vous, puisque vous avez voulu monter, il faut dormir. » Cette interruption donna un autre cours aux pensées de Ferdine. Tout en brossant ses cheveux, elle se souvint qu'elle s'était demandé un soir combien d'argent valaient ses longues tresses et ce que dirait Mademoiselle Caton si elle les coupait pour les vendre et en donnait le prix à Siméon. Pour lui, elle s'était crue prête à tous les sacrifices, surtout aux sacrifices romanesques. Elle souhaitait qu'il vînt un jour, comme dans les livres, lui dire « Je vous dois tout ». Mais que lui devait-il en réalité? Des leçons, pas trop bonnes encore, et les heures qu'elle avait passées à tricoter 6 paires de chaussettes. Le total parut si ridicule à Ferdine qu'elle se cacha la figure dans ses mains. Oh, les grandioses et nobles projets qui avaient pour résultat 6 paires de chaussettes! Un sentiment de pénible humiliation s'empara d'elle. Que de fois elle s'était dit, non pas en autant de mots, mais avec une vague conscience de supériorité, que sans elle, Siméon, trop modeste, trop peu ambitieux, n'arriverait à rien. En l'excitant à viser haut, elle s'était complaisamment imaginée qu'elle déployait une remarquable énergie. Lui, tandis qu'elle mettait son imagination à l'envers, travaillait assidûment, patiemment. Et elle venait de lui faire une affreuse querelle. Elle lui avait dit des choses qu'elle regretterait jusqu'à son dernier jour. Amoindrie à ses propres yeux, se détestant elle-même, Ferdine éclata en sanglots. Elle se laissa glisser à terre, appuya sa tête sur une chaise et pleura longtemps. Il lui semblait que jamais, quoi qu'elle fît, elle ne pourrait retrouver sa propre estime. Enfin, lasse de pleurer, lasse de se demander ce que Siméon pensait d'elle, elle appuya sa joue toute mouillée sur son bras et elle resta immobile dans cette posture pénitente. Ce fut ainsi qu'elle s'endormit le soir de sa première querelle avec Siméon. Quand elle se réveilla, glacée, enraidie, avec un vague sentiment de terreur et d'abandon, elle n'essaya pas de débrouiller ses idées confuses, mais elle se hâta d'aller se jeter sur son lit et dormit d'un sommeil sans rêve jusqu'au matin. Le lendemain, Ferdine se tenait en embuscade près de la porte du jardin au moment où Siméon sortait de chez lui. Elle s'était esquivée sous quelque prétexte et tremblait à chaque minute d'entendre la voix de Mademoiselle Caton la rappeler. Il était 8 heures du matin, les écoliers se rendaient en classe et bataillaient, chemin faisant, sous une mitraille de pelotes de neige. Aussitôt que Ferdine aperçut Siméon, elle courut à sa rencontre. « Es-tu fâchée contre moi ?» lui demanda-t-elle d'un ton pénitent. Il n'eut pas le temps de répondre, car à cet instant, un projectile lui rasa l'oreille et vint s'aplatir sur sa joue. Les assaillants, 5 ou 6 gamins plus jeunes que lui, dansaient de joie à 100 pas de là et s'apprêtaient à recommencer leur attaque. « Prends mes livres !» dit Siméon en l'étendant précipitamment à Ferdine. Elle courut les mettre à l'abri derrière la grille, puis elle revint auprès de son allié afin de lui fournir des munitions. Arrondissant ses deux mains comme une coupe, elle les plongeait dans la neige, serrait un peu et passait l'obus à Siméon. « Tu les fais trop dures, tes pelotes, » dit celui-ci au bout d'un moment. « J'ai peur de casser des nez. Quand c'est pour rire qu'on se bat, il ne faut pas faire pleurer. « Mais ils sont plus de 6 contre nous et en voilà d'autres qui arrivent. »« Bah, des gosses. Tiens, regarde comme ils visent. Je n'ai été touché qu'une seule fois. » Campé en face de l'armée ennemie, tenant dans sa main gauche 4 pelotes de neige que Ferdine renouvelait constamment, faisant décrire à son bras droit un énergique mouvement de recul, Siméon lançait le projectile d'un coup sec qui ne manquait jamais son but. Il visait au menton, ce qui éclaboussait désagréablement le visage de l'adversaire, lui remplissait parfois la bouche de neige et le mettait hors de combat pour quelques minutes sans lui faire de mal sérieux. Ferdine poussait des exclamations de triomphe. « Touché !» disait-elle. « Bon, encore un qui se sauve. Bravo, Siméon !» Tout excité par le combat, ses cheveux tombant en longues mèches humides le long de ses joues, les mains bleuies par le froid, elle ne sentait ni la bise ni les balles ennemies qui l'atteignaient par hasard. L'acharnement augmentait de chaque côté. Le feu ne cessait pas un instant. Ils étaient maintenant 12 contre Siméon, qui commençait à s'échauffer. La pourvoyeuse avait peine à suffire à la tâche. « Encore une pelote, vite, Ferdine, et fais-les durs à présent. Ils en veulent, ils en auront. Voilà pour Jules. Bon, sur le nez, il n'y reviendra pas. Dépêche-toi, Ferdine, mais dépêche-toi donc. Attrape, Léon. Attrape, Jean-Pierre. Gare à vos nez. » Au plus fort de la mêlée, une fenêtre s'ouvrit au-dessus d'eux et Ferdine tressaillit en entendant la voix de Mademoiselle Caton. « Frédégonde ! Frédégonde ! Rentrez immédiatement, petite sotte !» Son premier mouvement fut d'obéir, mais pouvait-elle laisser Siméon tout seul aux prises avec l'ennemi ? Ils avaient déjà, à eux deux, assez de mal à se défendre. « Tout à l'heure ! » répondit-elle sans s'interrompre. « Comment tout à l'heure? Je vous en donnerai des tout à l'heure. Rentrez à l'instant ou j'appelle votre père. » Ferdine, indécise, continuait machinalement à tourner une pelote dans ses mains. La troisième sommation ne se fit pas attendre. « Si vous n'obéissez pas, je descends et nous verrons alors. » La perspective d'être morigénée en pleine rue par Mademoiselle Caton et de fournir gratuitement ce spectacle aux ennemis décida Ferdine. « Siméon, » dit-elle à voix basse avant de s'éloigner, « est-ce que tu me pardonnes ?»« N'en parlons plus, » répondit-il. Elle lui apporta ses livres qu'il mit sous son bras, puis il prit sa course pour une charge à fond contre l'armée ennemie qui se dispersa alors de tous côtés comme une nuée de moucherons. La cloche de l'école, en se faisant entendre, mit fin aux hostilités. Ferdine rentrait, heureuse de s'être réhabilitée en combattant aux côtés de Siméon, et se souciait peu de la semonce qui l'attendait dans la salle à manger. « Quel âge avez-vous, mademoiselle ?» lui demanda la bonne, aussitôt qu'elle lui refermait la porte. « 13 ans et 7 mois, mademoiselle Caton. Où demeurez-vous ? Mais dans cette maison, j'imagine. » « Oui, dans cette maison, la plus respectable du village, et dont vous n'êtes pas digne malgré votre âge. Qui est votre père, je vous prie ?»« Vous allez me faire rire, ma bonne. Pourquoi toutes ces questions ? Je ne suis pas un chien perdu ?»« Qui est votre père ?» répéta sèchement Mademoiselle Caton. « Mon père est le docteur Arvoine. Je suis une jeune fille très tyrannisée, et j'ai le malheur de m'appeler Frédégonde. » Ma bonne est Mademoiselle Caton, âgée de 45 ans, native du village des Mouchettes, puisque vous voulez tout savoir. Silence ! Cria la bonne, vous me copierez 50 fois l'article 11. Ne pas faire de réponses impertinentes, acheva Ferdine. La vérité est donc une impertinence. Je m'appelle Frédégonde, c'est un fait. N'êtes-vous pas Mademoiselle Caton ? « Votre lieu natal, un charmant village du canton de... »« Vous copierez 100 fois, » dit Mademoiselle Caton, retrouvant à force d'indignation l'usage de la parole qu'elle avait momentanément perdu, et nous reviendrons au point principal qui est votre conduite de tout à l'heure. À votre âge, étant la fille du docteur, vous devriez sentir que votre position vous impose quelque retenue, quelque dignité. Au lieu de cela, vous faites le garçon. Article 13, ne pas faire le garçon. Vous le copierez 30 fois. Je vous vois dans la rue, tout échevelé, tout en sueur, à batailler contre une douzaine de polissons qui se moquaient de vous et ne manqueront pas de vous donner un sobriquet. Ferdine se redressa, le coup avait porté. Elle était fort sensible au ridicule et le tableau que Mademoiselle Caton venait de tracer d'elle n'avait rien de flatteur. « Je ne bataillais pas, » fit-elle, rouge comme une cerise. « Je faisais seulement des pelotes pour Siméon. Il saura bien empêcher ses gamins de me donner des sobriquets. Le plus sûr serait de ne pas leur en fournir l'occasion, » dit la bonne. Et Ferdine fut obligée de reconnaître que, pour cette fois, Mademoiselle Caton n'avait pas tort. Mais Siméon lui avait pardonné, c'était l'essentiel. Pour sa nature mobile, pardonner et oublier ne faisait qu'un. L'incident de la veille, qui lui avait fait verser tant de larmes, s'effaçait déjà dans sa mémoire sous d'autres impressions, et elle ne doutait pas qu'il n'en fût de même pour Siméon. Elle se trompait en cela, Siméon ne pouvait oublier si vite. Au moment où il comptait le plus sur la sympathie de Ferdine, elle lui avait fait défaut. Par caprice, par dépit, Ferdine s'était détournée. Elle n'avait songé qu'à son propre chagrin, augmentant par d'injustes reproches celui de Siméon. « Tu ne mérites pas d'être un homme. » Et pourquoi donc ne méritait-il pas d'être un homme? Était-ce pour avoir fait à sa tante le sacrifice de ses chers projets? Pour s'être efforcé de cacher son désappointement et de conserver quelque courage? Ferdine n'avait rien compris, rien deviné. Elle n'avait eu que des paroles amères. Sans doute, elle les regrettait maintenant. Il est bien facile de dire « Es-tu encore fâché, Siméon ?» Facile aussi de répondre « N'en parlons plus. » Mais oublie-t-on aussi aisément ? Pendant plusieurs semaines, Ferdine put sentir entre elle et son amie l'ombre de ce fâcheux souvenir. Elle n'était plus la confidente des petits ennuis, des difficultés journalières. Siméon ne lui demandait plus de s'intéresser aux menus détails de ses études ou de son travail manuel et, quand elle s'en plaignait, « Je n'ai rien d'agréable à te raconter, » disait-il. Peu à peu, cependant, l'ancien abandon revint, mais plus d'une fois encore, un mot, une réticence, un regard de Siméon rappelèrent à Ferdine que, dans cette crise de leur affection réciproque, la sienne avait tenu moins qu'elle n'avait promis.